Grand Angle, les reportages grand format du magazine Cui. Ligne de vie, un reportage de Morgane Kilikine et Jean-Christophe Attard.
L'immeuble était vivant, animé, la terrasse était toujours un lieu de vie, on faisait des tas de trucs. Quand les femmes ont commencé à travailler, les portes sont fermées.
Avant, vous entendez des gosses jouer, crier, chanter. Bon. Les gens aussi chantaient, ou les maçons sifflaient sur leurs échelles. Il y avait une ambiance joviale, tandis que maintenant, c'est bientôt le monde du silence.
À 24 ans, je me suis mariée, toujours avec un paysan. Et après, c'était différent. On travaillait dur, ça, c'est certain. C'était la misère noire. Ceux qui sont nés dans les années 20, nous avons été la pire des générations.
Nous, c'est dans la difficulté qu'on crée notre bonheur. Surtout dans le rapport garçon-fille. C'était très intense. Quand on se retrouvait, c'est la conjonction de quelque chose de magnifique.
Que diraient les anciens du monde d'aujourd'hui et de celui de leur enfance et de l'amour et du bonheur, de la vie en général? Et s'il suffisait d'aller le leur demander? Donner la parole aux anciens, c'est ouvrir un livre, un gros bouquin épais qui tient tout à la fois du roman, de la chronique, de la biographie et de la fresque historique. Et à mesure que se déroulent les chapitres, c'est voir la petite histoire se mélanger à la grande, les anecdotes côtoyer les grands faits, le micro et le macro marcher côte à côte. Aujourd'hui, ils frôlent ou tutoient les 100 ans, et ils ont tout vu, tout vécu. Les pires conflits armés et les années folles, l'explosion de l'industrie et la désertification des campagnes, la transition aussi rapide que violente d'une époque à une autre. Génération postée entre l'ancien et le nouveau monde, témoins et observateurs d'un siècle charnière, ils sont les derniers à pouvoir raconter ce que les plus jeunes ne font qu'imaginer et idéaliser. Au crépuscule d'une vie longue et bien remplie, ils posent un regard sur le passé, le leur et celui de leur époque. Une analyse sans concession ni complaisance, pas plus qu'ils n'en ont d'ailleurs pour la société d'aujourd'hui. Dans ce deuxième épisode, nous sommes allés à la rencontre de Luc Leitch, 104 ans au compteur et une mémoire d'éléphant qui va nous transporter de Marseille à Paris, en passant par Aulette et l'Algérie, et nous faire traverser un siècle d'histoire et d'anecdotes.
Je suis né à Marseille en 1920. C'était encore ce qu'on appelle la Belle Époque. Ça n'a plus rien à voir avec Marseille d'aujourd'hui. On parlait encore le provençal à Marseille. Comme en Corse, on parlait plus le corse que le français. Oui. À tel point que ma première langue, ça a été le provençal. Mes parents, comme voisins de Palier, avaient une personne âgée qui était une vieille provençale et qui ne savait pas parler le français. Alors, j'étais souvent chez elle. Et c'est comme ça que j'ai appris le provençal. Malheureusement, après, je l'ai perdu. Voilà. Alors, j'ai passé jusqu'à l'âge de 7 ans. J'étais à Marseille. Mon père était navigateur. Et nous étions originaires d'Aulette. Et comme, malheureusement, il y avait, à l'époque, il y avait des maladies contagieuses pour infantile, voyez-vous. Et mes deux frères, donc, ils sont nés avant moi, et ils sont morts en bas âge. Et moi, j'ai échappé parce qu'il y avait comme épidémie, on ne vaccinait pas comme aujourd'hui, voyez-vous. Il y avait la typhoïde. Et mes parents, donc, comme moi, j'ai survécu, parce que nous étions trois garçons. Alors, ils ont eu l'idée, ils ont dit, il vaudrait mieux qu'il aille au village. C'est comme ça que j'ai quitté à l'âge de 7 ans. Je suis arrivé à Olette. Là, il y a eu une difficulté parce que parmi tous mes camarades, ils parlaient corse. Ils se moquaient de moi parce que je ne savais pas parler corse. Oui. C'était l'époque où la Corse vivait encore, comme la Provence d'ailleurs, à l'heure pastorale. La plupart des villages vivaient en autarcie. On produisait, on cultivait beaucoup. Oui. Il y avait beaucoup d'élevage, tout ça. Et évidemment, c'était une autre époque. Mais j'en ai gardé un excellent souvenir. Parce qu'on vivait près de la nature. Oui. Et il y avait des joies maintenant qu'on ignore, mais que nous avons connues. On vivait en harmonie avec la nature. Et nous étions heureux. Nous étions heureux parce que le monde se limitait à notre horizon. Oui. Ce qui s'est passé au Japon, tout ça, on l'ignorait. On ne savait même pas où était le Japon. Voilà, en Corse, donc, je suis resté en Corse jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, mes parents, à Marseille, ils ont passé un peu à mes études. Ils m'ont fait venir à Marseille, ils m'ont réclamé, parce que j'étais chez mes grands-parents. Bon. Et de là, mon père a quitté la navigation et il avait acheté un hôtel-restaurant en Algérie. Alors je suis parti en Algérie.
En 1934, Luc Leccia quitte l'Algérie pour Paris, une découverte et quelques désillusions.
En 1934, mon père m'a dit « Il vaudrait mieux que tu ailles faire des études à Paris. » Alors je suis parti à Paris, dans un collège qu'on appelait Sainte-Barbe. Alors voilà, je débarque à Paris. J'étais surpris à Paris parce que je croyais à Paris qu'on parlait le français le plus châtié, tandis qu'on parlait l'argot. Alors j'ai été un peu déçu. Enfin, j'ai passé quand même 3 ans à Paris, jusqu'en 1937, jusqu'à l'exposition. Alors j'ai vu construire les fameux palais, dont un seul a survécu, c'est le palais de Tokyo, dont Ange, justement, a été le directeur à un moment donné. Voilà. Alors à Paris, je suis resté à Paris pendant jusqu'à 1937. Ensuite, pour des raisons domestiques, j'ai rejoint encore Marseille pour terminer mes études à Marseille. Alors je suis resté à Marseille jusqu'en 1940 et j'ai été mobilisé. Alors mobilisé, évidemment, c'était la guerre. On m'a envoyé dans le Tarn, à Albi, mais on n'est resté pas longtemps. Au bout d'un mois, on a signé l'armistice. Le général Pétain avait signé l'armistice avec Hitler et ça fait qu'on nous a... On nous a fait sortir des casernes, on nous a remis nos uniformes civils et nous pensions rejoindre nos foyers. Mais un général a eu l'idée, il dit, mais on ne va pas les lâcher comme ça, il faut les occuper. Alors comme ça, on nous a envoyés dans le Tarn, on nous a convertis en bûcherons. Parce qu'à l'époque, l'essence à cause de la guerre venait à manquer. Alors, ils ont eu l'idée de faire marcher les voitures au gazogène. Alors, pour le gazogène, il fallait du bois. Et le bois chauffé produit un gaz qu'on appelle le gazogène et qui sert comme combustible et comme carburant. Voilà, alors, on a passé 6 mois en forêt. C'était sympa, on a bien vécu parce qu'il y avait... Toute la société était représentée. Il y avait des ouvriers, des étudiants, il y avait même un ecclésiastique, oui. Alors, on s'entendait bien. Et puis, de là, donc, nous avons été démobilisés. Alors, je suis retourné à Marseille en 1942. Alors, je comptais poursuivre mes études supérieures, mais 1942, il y a eu le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Et alors, les Allemands ont envahi Marseille et toute la Côte d'Azur, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient la zone libre. Et en Corse, nous avons eu les Italiens. Beaucoup me demandaient de leur apprendre le français. Alors, on était finalement, on était loin d'être des ennemis. Alors, ils me disaient, quand on dit à ma casa, je dis, ah, ça, j'en sais rien. Bon, enfin, ça s'est bien passé avec les Italiens. Voilà. Jusqu'à la libération de la Corse. Seulement, en Corse, en majorité, c'était l'armée italienne qui était là. Mais il y avait, dans la plaine orientale, il y avait quand même peut-être un bataillon d'Allemands, oui, qui gardait justement l'aéroport parce qu'il y avait des avions pour bombarder. Donc, je dirais, c'est eux qui avaient inauguré les aéroports qu'il y a maintenant. Oui. Mais voilà, à l'automne 1943, je ne sais pas pour quelle raison, les Italiens étant les plus nombreux, ils se sont crus, ils ont dit maintenant ces Allemands, on va les faire prisonniers. Les Allemands, attention, c'est pas, ce sont des guerriers. Hein. Alors que les Italiens, c'était plutôt des figurants comme soldats. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le malheur de les attaquer, les autres ont riposté et ça a été la débandade. En peu de jours, nous avons vu notre bataillon d'Italiens. Ils ont pris la fuite, tout ça. Et après, ont débarqué les Marocains, les tirailleurs marocains. Et c'est comme ça qu'a eu lieu la libération de la Corse. Et les Allemands ont essayé de regagner Bastia pour embarquer, pour aller en Italie. Alors moi, je suis resté quelque temps. Nous avons été occupés par nos libérateurs. Mais il ne faut pas oublier que j'étais quand même mobilisable. Et ma classe a été appelée la classe 40. Mais comme je dépendais du recrutement de Marseille, j'aurais pu très bien rester à la maison parce qu'on m'aurait cherché à Marseille, mais pas à Olette. Mais alors je me suis présenté quand même, et de là, je suis parti en Afrique du Nord, à Alger. D'Alger, nous envoyés en Tunisie, chez les tirailleurs, régiment de tirailleurs tunisiens. Voilà. Et de là, après, j'ai rejoint l'Italie, dans les environs de Cassino. Et après, alors, j'ai fait toute la guerre d'Italie, en attendant de faire le débarquement. Et puis après, j'ai fait la campagne de France, jusque pendant l'année 44, jusqu'à mes blessures. Dans les camps, j'ai été blessé du côté de Montbéliard. Oui. J'ai été hospitalisé, donc envoyé à Lyon. Et 3 mois après, j'ai pu avoir une convalescence pour aller à Olette. Et après ma convalescence, je rejoins le dépôt à Tunis. Et là, j'ai attendu l'armistice, 1945. J'ai échappé à la mort pas mal de fois. Ça tient du... Il y en a qui attribuent ça au hasard. Mais le hasard, pour moi, ne peut pas se récidiver. Tandis que moi, j'ai eu une série d'échappées belles. Vous sortez indemne d'un accident, vous pouvez dire c'est le hasard. Mais si vous arrivez une dizaine de fois, vous dites il y a autre chose. Voilà. J'ai fréquenté pas mal de temps la mort. Je l'ai eu souvent à mes trousses, mais n'a jamais pu m'attraper.
Après la guerre, les combats, les blessures, les compagnons laissés sur le bord du chemin, comment se reconstruire ?
Après la guerre, je me trouvais à Bizerte. J'avais été affecté ensuite, étant blessé, comme secrétaire au bataillon à l'état-major. Alors, l'armistice est arrivé. Le commandant m'a dit, qu'est-ce que vous comptez faire ? je dis, moi, ce qu'on te fait rentrer dans l'enseignement. Il a haussé les épaules. Il dit, pourquoi vous ne restez pas ici? Ici, vous savez, tous les 6 mois, vous montez en grade. Et c'est moi qui propose justement les promotions. Vous n'êtes pas bien à l'armée. Ah, je dis oui, mais non, pour des raisons, je veux me rapprocher de ma famille, tout ça. Et je veux rentrer dans l'enseignement. Et ce qui s'est passé, donc j'ai fait une carrière d'instituteur. Ce qu'on appelait, maintenant on les appelle professeurs d'école. J'ai fait 40 annuités, mais elles n'ont pas été effectives parce que je suis parti 3 ans avant à cause de mes blessures. Oui. Voilà. Alors ça fait que, si je calcule, je dois avoir 42 ans de retraite. Alors ça fait que, depuis que le temps que j'ai quitté l'école, maintenant j'ai des difficultés. Surtout maintenant, je suis devenu un alphabète. Ce sont ceux qui ne savent pas se servir ni d'un ordinateur, ni d'un portable. Ce sont les nouveaux analphabètes. Comme mes fils, maintenant ils ont tous l'ordinateur. J'ai recours à eux s'il y a quelque chose d'important à communiquer.
Quand il évoque ses enfants, sa famille, Luc Leitch ne se départ jamais de sa légèreté ni de sa lucidité.
L'aîné, c'était Jean-Pierre. Jean-Pierre qui a maintenant 72 ans. Alors maintenant, mes enfants, là, ce sont des seniors. Bon. Alors lui, il est né à Morcille. Ensuite, Ange, que nous appelons Alain, parce que Alain, c'est son nom de quand il était au lycée à Bastia, et même maintenant, il est connu sous le nom d'Alain. Et il s'est appelé Ange lorsqu'il est arrivé à Paris, en fac à Paris. Alors le professeur appelle par le premier prénom. Alors on l'appelait Ange, et comme il était très beau garçon à l'époque, ça a été pour une révélation pour les filles. Les filles, Ange, Ange. La première fois qu'ils entendaient ce prénom. Alors il a gardé, c'est devenu son nom d'artiste. Voilà. Ensuite il y a eu Jean-Claude, comme nous l'avons vu il y a 10 ans plus tard. Lui, il est né à Bastia. Voilà comment, tant bien que mal, donc ils ont fait leurs études à Bastia. Et ça s'est assez bien passé, enfin. C'est surtout ma femme qui avait du souci pour les enfants. J'ai laissé libre, je leur ai fait tout simplement, je dis, écoutez, moi j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu, faites-en autant. Tâcher de ne pas faire de bêtises, et voilà. Et voilà, ils ont poussé. Maintenant, je suis content, parce que malheureusement, maintenant, que serais-je à mon âge sans mes enfants? Parce que j'ai perdu tous mes parents, j'ai perdu mes collègues, mes amis. Oui. Par exemple, à Bastia, quand je sortais, je rencontrais des collègues sur la place Saint-Nicolas. Bon. Et maintenant, je n'en vois plus. Alors, des collègues de l'enseignement, des collègues de l'armée aussi. Le 11 novembre, il y a quelques années, nous étions au moins 50 devant le monument. Et dernièrement, nous n'étions plus que 5. Si je continue, je vais être seul. Voilà. Voilà comment ça se passait. Donc, il y a eu des événements heureux, en fonction des aléas. Il a fallu quand même passer entre les aléas et les impondérables.
Quelle place occupe la vie de couple durant une existence aussi longue?
Ma femme m'a beaucoup aimé, mais même trop, parce que, attention, j'avais tendance à regarder toujours les belles filles. Et je vois que ça continue, hein. C'est pas de ma faute, j'aime la beauté. J'en profite et ça m'aide à vivre, aimer la beauté. Parce qu'il n'y a pas que la beauté féminine, il y a la beauté de la nature, tout ça. Donc, il ne faut pas vivre comme la vache qui regarde passer le train. Oui. Elle est, il ne faut pas être indifférent. La vie, il faut la voir de près, il faut en savoir en tirer le meilleur et savoir apprécier son environnement. Alors, on a besoin d'un environnement sain, aussi bien matériel qu'affectif. Et tout cela aide. Je crois que moi, j'ai beaucoup aimé la vie et ainsi que la volupté de vivre. Et c'est pour ça que ça m'a aidé. Et ça m'aide encore. Parce que normalement, j'en aurais pas pour longtemps. Hein, parce que quand on arrive, on entame les 104 ans. Où voulez-vous aller ? On sait bien.
À 104 ans, appréhende-t-on la peur de la mort de la même manière ?
Je suis comme si j'avais 50 ans de moins. Si vous avez peur de mourir, vous précipitez la mort. Ça, je l'ai vu pendant la guerre. J'avais des camarades de Corse qui me disaient « Olecha et un chisotto ». Et j'ai dit « Non ». Et en effet, ils avaient justement cette idée, je ne sais pas d'où ça vient, ils savaient qu'ils ne devaient plus revoir la Corse. Et ils ont été tués quelques jours après. Tandis que moi, c'était le contraire. Moi, j'aurais fait des paris que j'allais survivre. À savoir pourquoi. C'est une question, je ne sais pas, d'où vient ce sentiment. Il vient du profond de notre conscience, je ne sais pas. Peut-être que nous connaissons que notre fort intérieur doit connaître quand même l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'intuition. Et moi, c'est le contraire. Moi, je le vois plutôt de côté plus agréable. J'ai le sentiment que je vais vivre encore longtemps. C'est peut-être comme ça. Comment l'expliquer, ça ? Ça ne vient pas du cortex, ça vient d'ailleurs. Ça vient du cœur.
Quel est le secret d'une telle longévité ?
Il faut d'abord savoir vivre. Mais le savoir vivre consiste justement à mieux connaître la vie et à respecter ses lois. Alors, vous avez plus de chances, à ce moment-là, de garder votre disponibilité. Parce que, vous savez, le proverbe au sujet du corps, « Si tu veux aller loin, ménage ta monture. » Et la monture, c'est notre corps, il faut savoir. Lui aussi, c'est un moteur biologique. Alors lui aussi, il faut connaître ses capacités. Et il vaut mieux ne pas essayer de vivre au-dessus des moyens que l'on a corporels. Oui. Il ne faut pas se laisser berner par l'ambition. Alors, c'est bien beau, les compétitions, tout ça. Moi, je n'ai jamais été candidat pour les compétitions. J'ai toujours été plutôt cool qu'autre chose.
En l'espace d'un siècle, la société a-t-elle fondamentalement évolué ? Et dans quel sens ?
Alors, je constate une chose, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus de la nature et du naturel. Oui. On ignore les vraies joies. Les vraies joies, même à bon marché. Par exemple, il y a des merveilles naturelles dont on ne se lasse pas. Je dis par exemple, on ne se lasse pas d'un beau coucher de soleil. D'abord, il se renouvelle, oui. Ça ne devient pas quelque chose de banal, non. On sent qu'on est dans le vrai. Et tout ce qui est naturel aussi. Mais maintenant, vous avez le merveilleux artificiel. Alors, merveilleux artificiel, vous avez ça. Vous avez la télévision. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu la télévision, j'ai été étonné. Et j'ai eu vraiment, pour moi c'était une merveille. Mais après ce merveilleux, avec le temps, hein, il s'est dilué, et maintenant il est devenu banal. Oui, ça ne me dit plus rien. Tandis que quand je pense aux joies de plus tard, de nos fameuses veillées, oui, c'était quelque chose. Hein, parce que c'était naturel, il y a des plaisirs naturels. Et puis, nous avons besoin, nous sommes faits de chair, nous avons besoin du contact charnel. Sans compter, ne parlons pas de sexe, mais d'amitié. Même deux amis, ils se rencontrent, ils s'embrassent, tout ça, on sent qu'il faut... Tandis que avec le portable, c'est plus pareil. Vous faites une conversation avec le portable, il vous manque l'essentiel. Il vous manque ce contact, cette présence. Oui. Bon, c'est pas que j'en veuille au portable, non, je suis pas contre le progrès. Mais je reconnais, oui, qu'il y a... que c'est plus pareil. Maintenant, depuis... on va trop, là aussi, on va trop vite, sans savoir exactement où on va. Voilà. Mais ce n'est pas un reproche, c'est une constatation. On n'a pas à juger. Mais malgré tout, quand on a justement la chance de vivre deux époques différentes, alors on voit ce qu'il y a de bien à côté, ce qu'il y a de... Parce que attention, c'était pas parfait quand même. Hein. Non, il n'y a jamais eu la perfection sur Terre. Mais on peut dire ce qui a les avantages et les inconvénients. Comment perçoit-on la joie de vivre? La joie de vivre avant, prenons le cas de Bastia, sans compter le village. Avant, vous entendez des gosses jouer, crier, chanter, bon. Les gens aussi chantaient, pour oui, pour non, mais les ouvriers, comme on dit dans le poème où les maçons sifflaient sur leurs échelles, hein, oui, il y avait une ambiance joviale qui a disparu. Tandis que maintenant, c'est bientôt le monde du silence.
Quatre profils, c'était, croyait-on, l'assurance certaine de pouvoir dégager des transversales, des tendances, des grandes vérités qui auraient balayé toute une époque et toute une génération pour lui tirer le portrait. Au fil des rencontres, il a en réalité d'abord fallu tordre le cou à cette idée préconçue. La société dans laquelle ils sont nés n'était certes pas encore devenue celle de l'hyperconsommation et du divertissement de masse. Les sollicitations et les possibilités n'étaient pas celles d'aujourd'hui, et pourtant, les existences et les parcours ne sont pas des copier-coller les uns des autres. Si l'idée de pire génération est subjective, elle est en tout cas celle du grand écart, pour ne pas dire de l'écartèlement. Élevée dans un cadre rigoureux qu'elle a vu se désagréger, passer de trop peu à trop d'eux, elle a accompagné un siècle particulièrement remuant. Aujourd'hui, forcément un peu déconnectée, elle n'en demeure pas moins une force témoin, postée comme en sentinelle aux portes d'un monde révolu qui a encore des choses à nous apprendre, si on lui prête l'oreille. Grand Angle, les reportages grand format du magazine QI. Ligne de vie, un reportage de Morgane Kilikin et Jean-Christophe Attard. Voix off, Jean-Christophe Madzone de la compagnie La Cible. Réalisation Jean-Christophe Attard et Suzy à la mercerie pour l'agence Totem.